France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville, Christophe Chassol.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Musique. Bienvenue à vous, chères auditrices, chers auditeurs, qui nous accompagnez aujourd'hui au Théâtre de l'Alliance Française pour cette émission que j'ai le plaisir de présenter avec Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien ?
Je vais fort bien.
Alors voilà un thème aujourd'hui qui nous a donc été suggéré par une auditrice. Ouais. Il y a quelques semaines, un thème qui nous a bien fait travailler tous les deux.
Hein. Ah oui, un thème impossible. Les religions.
Oui,
ou la
là,
musique,
les religions.
La musique et la religion.
Musique et religion, ouais, au singulier ou au pluriel. On a dû
bien
batailler, mais, voilà.
C'était passionnant pour moi.
Ah oui, mais moi aussi.
Mais bon, on va pas en 25 minutes pouvoir tout faire. Mais écoutez, moi, j'ai voulu vous jeter tout ce que ça m'évoquait dans ma discothèque personnelle. Alors, vous allez voir, j'ai du latin, du français, de l'anglais, du jamaïcain, des hippies, des revivalistes, des sataniques, des satiriques, des catholiques, des juifs, des louanges, des glorifications, le paradis. Voilà, il y a tout ça qui
vous avez préparé un petit medley pour commencer.
Voilà, on va écouter. Déjà, on commence avec Ave Satan. Annie de Jerry Goldsmith en 1976. On boit le sang. On mange la chair. Et on élève le corps de Satan.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia,
Michel Magne, Jean-Yann, alléluia, tout le monde dit des beaux, tout le monde dit des gentils.
Alléluia, alléluia, alléluia.
1972. Oh, come let us sing to the Lord. Dave Brubeck, 1969, dans The Gates of Justice. Steel Pulse, en 1978, le morceau Soundcheck. Une chanson revivaliste de Copland, Zion Wall, de 1952. In My Life, de 1976, John McLaughlin, ce hippie. Every morning, thank you for the peace that you bring every evening. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you for fish in the sea. Thank you for all that be. Loda, Mousté, nous te louons, dans le Gloria de Poulenc, 1961.
Ah, J'adore Francis Poulenc. Merci Christophe avec pour plaisir. Ce medley. On va d'ailleurs continuer avec un chœur, un autre chœur, alors un petit peu plus surprenant, un petit peu plus puissant,
vous
et certainement, certainement, certainement bien plus connu. Écoutez. Vous avez reconnu cet Alléluia.
Mais vous savez, on sait même plus, c'est dans l'ADN de tout le monde ce truc, on sait même plus d'où on le connaît.
Oui, j'aimerais vraiment faire un micro-trottoir et vraiment demander à quelqu'un si c'est possible de ne l'avoir jamais entendu.
Je crois pas.
Ce chœur extrait du Messie oratorio de Handel. On va tout d'abord préciser c'est quoi un oratorio. C'est une sorte d'opéra, mais qui n'était pas destiné à être mis en scène. Donc c'est ça qui diffère aussi de l'opéra. Il était destiné à être joué dans les églises. Le sujet est lui aussi généralement religieux. Il a été composé, cet oratorio, en 1741. Alors Handel habite à l'époque à Londres. C'est déjà un compositeur extrêmement célèbre. Il a 56 ans. Et en 3 semaines, il compose cette œuvre-là qui va devenir son œuvre la plus célèbre encore aujourd'hui. Alors, que raconte cet oratorio? Ce n'est pas un épisode de la vie de Jésus, mais c'est l'ensemble de sa mission. On a sa naissance, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension, etc., etc. Et je me suis intéressée, alors il va falloir résumer, parce qu'il y a mille et une raisons qui expliquent son grand succès encore aujourd'hui. Pourquoi est-il devenu aussi connu et pourquoi ce chœur Alléluia est aussi célèbre encore aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, cet Alléluia est chanté par toutes les chorales de tous les pays chrétiens encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est resté. Sa connotation religieuse lui est même retirée en quelque sorte. C'est vraiment une œuvre qui fait partie du répertoire. Que raconte-t-il cet Alléluia? Il raconte qu'après la mort, il y a la résurrection et l'ascension. Ce chœur ici qu'on entend, hein, renforcé par les trompettes, les timbales, explose de joie. Et puis, il communique aussi sur une image, l'image triomphale et optimiste d'un Dieu salvateur. Et ça, ça avait de quoi plaire au public de l'époque en Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que l'Angleterre a une grande tradition chorale et que Handel, dans cet oratorio, si vous l'écoutez en entier, ce que je vous invite à faire évidemment, offre une immense présence au chœur, ce qui permet donc au peuple, aux auditeurs de s'identifier. Et puis cet oratorio annonce la supériorité d'un homme, d'un dieu, et par ricochet celle d'un peuple. Et donc le peuple anglais, en très résumé, s'est emparé de cette œuvre comme une œuvre représentative de la puissance anglaise de l'époque. Le peuple anglais, qui plus est, selon lui, le plus musicien de tous les peuples, a une raison. La preuve, c'est qu'il a été choisi par le plus grand compositeur de tous les temps, Handel, qui a donc décidé de s'y installer et de développer sa carrière. Alors il y a aussi cette légende que j'aime beaucoup. On raconte que lors d'une représentation à l'époque du vivant de Handel, en présence du prince et de la princesse de Galles, le couple se serait levé pour quitter la chapelle au moment de ce chœur, Alléluia, en pensant que c'était la fin de l'oratorio. Alors que pas du tout, ce chœur se trouve dans la deuxième partie de l'oratorio. Et donc c'est devenu la norme depuis. À chaque fois que ce chœur est chanté, tout le monde se lève dans la salle en Angleterre. C'est vraiment devenu une tradition. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il est très connu. Et puis encore d'autres choses. Oui, c'est au final. Mais il fallait les trouver.
Il n'y a que ça, en fait.
Et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde peut le chanter aussi, ce Handel. Les organisateurs de concerts vont gonfler de plus en plus l'effectif au fil des représentations. Il y a des chiffres, hein. 50 ans plus tard, après la création de ce Messie de Handel, il est interprété en Angleterre par plus de 1000 musiciens. En 1883, un siècle plus tard, 4000 choristes et 500 instrumentistes sont réunis. Alors, on est loin de ce que Handel avait imaginé au départ dans sa partition, à savoir un orchestre réduit et un chœur professionnel. Mais c'est ce qui, sans doute, a contribué encore à rendre ce chœur encore plus célèbre. Et ce n'est pas le mot de la fin, Christophe, ce Alléluia. Il y a une autre façon aussi de faire avec une compositrice que j'aime beaucoup.
Ouais. Écoutez, oui, moi aussi, je suis tombé amoureux de Lili Boulanger, je sais pas, quand j'avais 20 ans. Voilà, une compositrice morte très jeune, 1893-1918, pas 24 ans. Et voilà, elle a écrit « Pie Jésus », par exemple, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et là, je voudrais vous faire écouter ses psaumes, le psaume 24. J'avais même pas fait le lien entre psaume et psalmodier, quoi. Et donc l'idée d'une mélodie comme ça, simple et sur la même note, j'adore ce genre de mélodie, moi, en fait. Mais je vais vous faire écouter « La terre appartient à l'éternel ». On écoute et ensuite je vous dirai ce que j'adore là-dedans. Je vais essayer de vous jouer ce que j'adore là-dedans, c'est les changements d'accords. Quand elle fait comme ça, là. Ce sera l'homme qui... Sur le qui, écoutez l'accord qu'elle choisit sur le qui. Ce sera l'homme... Et puis... Qui... Do... Mi... Mi... Fa... La... Si... C'est tellement moderne, c'est tellement de la musique.
C'est toujours fascinant chez cette compositrice.
Elle, c'est dingue. Si jeune, elle arrive à comprendre déjà ce qui allait se passer 50 ans plus tard. Exactement. Je veux bien qu'on réécoute ce passage, justement, juste ce passage, donc. Ces accords majeurs qui s'enchaînent, ça ressemble pas à de la musique classique. Je sais pas comment vous le dire. Il y a un twist moderne qui me ravit, moi. Et on a la même chose dans une vieille prière bouddhique qu'elle a écrite, je crois, en 1916, pour ténor, chœur, piano, orchestre. Et voilà, je vais vous jouer une mélodie que j'adore. Elle dit que toute chose qui respire sans ennemi, sans obstacle, surmontant la douleur. Alors, quand elle fait ça, en fait. Il y a plein de façons d'harmoniser ça, hein. Tolsa, mais que toute chose qui respire sans ennemi. Alors, que toute chose. Écoutez les accords qu'elle choisit. Voilà, je veux dire, qui fait ça en 1916? Voilà, ça ressemble vraiment à de la musique de film, à de la musique toute moderne, on écoute.
Thank you.
c'est très prenant.
Ouais.
Oui, mais il faut écouter l'entièreté de l'œuvre, oui, de Lily Boulanger, parce que tout est absolument
vers
génial.
Vers le milieu, et puis, enfin, vraiment, les accords nous surprennent à chaque fois, en étant en même temps pas choquant, mais c'est jamais le chemin balisé des suites harmoniques. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup.
France Musique, Saskia Deville, Christophe Chassol.
Christophe, quand on a évoqué ce thème, la religion, je pensais au diable, je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi pas.
Le diable dans la musique, eh bien, cette expression porte un nom en latin, c'est diabolus in musica, expression latine qui est née à la fin du Moyen-Âge et qui désigne un intervalle, alors je vais faire appel à vous Christophe, cet écart entre deux notes, ce fameux triton, trois tons entiers de suite.
Oui. Bah, un ton, on rappelle ce que c'est quand même, c'est deux demi-tons.
Exactement.
Donc de do à do dièse, il y a un demi-ton. Donc de do à ré, il y a un ton.
Il y a un ton.
Donc de ré à mi, il y a encore un autre ton. Et puis de mi à fa dièse, bien là, on a trois tons. En fait, do, ré, ré, mi, mi, fa. Donc c'est ça, un triton. Do, fa dièse.
Voilà, vous qui aimez tellement les dissonances, Christophe, vous, je fais cette chronique pour ce triton qui engendre une tension, une dissonance, qui appelle quelque chose, contrairement à une carte juste, par exemple, qui un accord qu'on utilise plus traditionnellement, qui va se résoudre en quelque sorte. On va être apaisé avec ça.
Vous pensez vraiment ça? Parce que
c'est une manière, absolument pas, parce que dans la musique, on trouve de tout, et c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, à la fin du Moyen-Âge, ce triton, cet accord qui grince un petit peu, était très mal considéré. L'Église avait quand même fortement imposé aux compositeurs de ne pas utiliser ce fameux triton, car trop connecté au diable dans la musique. Et donc,
vous savez ce qu'on nous disait, nous, à l'école? On nous disait de ne pas faire des secondes, plutôt.
Ah,
des
voilà.
Secondes, c'est ça. Enfin, pas des secondes, des neuvièmes.
À chaque époque, c'est interdit.
On ne pouvait pas faire do, ré, bémol. Mais je vous parle de ça en 2006 à Berkeley, à l'école. On ne pouvait pas faire ça.
Ah oui, pourquoi pas?
Ben, moi, je trouve que c'est plus simple de faire ça. Enfin, ça sonne mieux que... Mais c'est beau aussi.
Mais pourquoi pas?
Oui,
on peut tout
pas.
Tester. Ça dit, personne n'allait venir chez vous et vous mettre en prison parce que vous composiez avec des tritons. Jean-Sébastien Bach, dont je parle très souvent dans cette émission, l'a fait, notamment pour incarner Judas dans La Passion selon Saint Jean. Cela dit, j'ai choisi trois œuvres du 19e siècle pour vous le faire entendre. On commence en 1874. Camille Saint-Saëns qui fait sonner, dès l'ouverture de sa Danse macabre, un triton grinçant, violemment martelé par le violon. À la tombée de la nuit, dans un cimetière, un squelette joue du violon et frappe de son talon sur les tombes, et il joue ses accords complètement dissonants, ces fameux tritons, pour représenter la mort, tout simplement. Je vous ai trouvé un autre exemple, une autre danse macabre, signée cette fois Franz Liszt, composée un petit peu auparavant, née en 1838, et qui fait également un large usage du triton et d'accords mineurs dissonants. Je vous fais écouter le tout début de cette Toten Dance avec Christian Zimmermann, l'Orchestre Symphonique de Boston, et C.J. Ozawa. Vous avez entendu ces notes graves martelées au piano de façon inquiétante et qui ressemblent vraiment à une marche funèbre finalement, qui est utilisée d'entrée de jeu pour ouvrir l'œuvre, pour vraiment insister sur cet aspect-là, cet aspect dérangeant que je trouve vraiment génial. Et je vous conseille vraiment d'écouter à la fois la danse macabre de Saint-Saëns, qui est assez courte, qui dure 7 minutes, quelque chose comme ça, mais cette Toten Dance de Franz Liszt, danse macabre, qui est absolument génial.
Tout, c'est mort, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, puisqu'on parle d'accords dissonants, et puis de tritons, et de choses qui grattent, et de marches funèbres, alors j'avais envie qu'on termine cette émission, Christophe, avec cette sonate que j'aime beaucoup, le troisième mouvement de la deuxième sonate de Frédéric Chopin, jouée par Martha Argerich, encore une marche funèbre, une sonate pleine de lenteur, de lourdeur, qui évoque la tristesse, et puis on a des merveilleuses échappées de lumière, c'est d'une beauté immense, et j'avais envie de vous la faire entendre pour terminer. Même été jouée cette sonate lors de l'enterrement de Chopin lui-même au cimetière du Père Lachaise.
Après, la mort signifie pas forcément la religion. Hein.
Non, c'est vrai. Mais alors là, c'est un autre débat, Christophe. C'est bien, ça nous ouvre un thème pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Christophe.
Merci à vous.
D'avoir partagé bien ce micro avec moi aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe, Pauline Boisaubert, Éric Lancien, Philippe Thibault, Titouan Wex, Cédric Châtelus et Nicolas Bonnet. Puis merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous écouter eh bien, à l'antenne et ici d'être présents avec nous au Théâtre de l'Alliance Française. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci. Salut.
À réécouter sur francemusique.fr.